on n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de On n'est pas des Einstein mais tout est relatif. C'est le premier épisode de la saison 2, c'est la rentrée de septembre, la rentrée de septembre 2023 qui vient de passer. Donc on souhaite tout d'abord une bonne rentrée, un bon début d'année scolaire à tous les élèves et également à tous les enseignants et tous les personnels qui travaillent également avec nos élèves pour le bien-être de nos petits chérubins. En tout cas, j'espère que tout va bien et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tout à fait surprenant. Alors, déjà, il faut savoir qu'à partir du mois prochain, on attaquera un sujet bien particulier qui est celui du réchauffement climatique. Ce sera le sujet primordial, le thème de notre saison 2. Et à partir du mois prochain, on va pouvoir parler notamment du pôle sud terrestre et de l'effet du réchauffement climatique sur le pôle sud. Mais aujourd'hui, nous allons parler du pôle sud, mais du pôle sud lunaire, celui qui est situé sur la Lune. Et je suis en compagnie de Louise Pécher, qui est ici, que vous connaissez déjà si vous avez suivi la saison 1, puisque Louise est souvent parmi nous dans notre studio.
Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être de retour.
Comment ça va?
Ça va très bien, la rentrée se passe et démarre sur les chapeaux de roue.
Et ouais, alors sur les chapeaux de roue, pourquoi sur les chapeaux de roue?
Eh bien, en particulier les roues qui foulent à l'instant même la Terre du pôle sud lunaire. Nous avons une mission spatiale Chandrayaan 3 menée par l'agence spatiale indienne ISRO qui a réussi brillamment à atterrir sur la Lune il y a peu. Et c'est quelque chose qui est vraiment très notable parce qu'en réalité, depuis le début de l'aventure spatiale, il n'y avait eu que 3 nations à avoir pu poser quelque chose sur la Lune. Et donc l'Inde fait maintenant partie de ce club très restreint et est la 4e nation à avoir posé un lander sur la Lune.
Donc, vous l'aurez compris, l'Inde est un nouveau... Comment on peut appeler ça ?
Un nouvel acteur du spatial.
Donc, ce sera, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui. Nous parlerons de la Lune, de l'Inde et de la Lune, du pôle sud lunaire et de ce qui s'y passe en ce moment. Tout de suite, je vais vous parler des news du mois de septembre du point de vue de l'information scientifique et on revient avec Louise dans quelques instants. Soyez attentifs.
Et voici les news pour cette rentrée. Dans un article intitulé « Stand up Space Greta » qui a été écrit par Debra Warner et Myriam Klachinska et publié le 6 septembre dans le magazine Space News, on aborde la recherche d'un défenseur passionné de la durabilité spatiale, similaire à Greta Thunberg pour le changement climatique. Cet article met en lumière les actions de jeunes professionnels engagés dans le secteur spatial pour promouvoir la durabilité. Pourquoi de la durabilité dans l'espace, me direz-vous? Tout le monde connaît le problème des débris spatiaux qui représentent une menace pour les missions scientifiques, les communications, la navigation et la sécurité nationale. Ils peuvent perturber les services satellitaires essentiels à la vie quotidienne. Préserver l'environnement spatial, c'est aussi éviter de l'accumulation de débris potentiellement nuisibles pour la Terre. Dans un autre article de Space News, écrit par Andrew Jones le 7 septembre, l'Afrique du Sud a officiellement rejoint le projet ILRS International Lunar Research Station, dirigé par la Chine pour établir une base lunaire permanente. L'accord a été signé le 1er septembre entre la CNSA, China National Space Administration, et la SENSA, South African National Space Agency, lors de la visite du président chinois Xi Jinping en Afrique du Sud. L'ILRS vise à construire une base lunaire permanente d'ici les années 2030. ce qui en fait un concurrent potentiel du programme Artemis dirigé par la NASA. La Chine prévoit une série de missions robotiques pour préparer la base avec l'intention de faire atterrir des astronautes sur la Lune avant 2023. Le projet a également obtenu le soutien de plusieurs autres pays et organisations internationales. Le siège de l'ILRS sera situé en Chine avec des installations de simulation, de contrôle des opérations, de traitement des données et de formation internationale. Pour finir dans le ciel en septembre, article de Futura Science. Découverte à la mi-août, la comète C2023-P1 Nishimura continue son périple au sein du système solaire, se rapprochant de la Terre et pourrait se rendre visible à l'œil nu dans les prochaines semaines. Il faudra tout de même être vigilant. Avec son orbite hyperbolique, cet objet interstellaire va rapidement perdre en magnitude, tandis qu'il filera vers son périhélie, point le plus proche du Soleil. Nishimura l'atteindra le 18 septembre et continuera sa traversée du système solaire. Mais la comète pourrait aussi connaître une fin bien plus explosive. L'augmentation de la chaleur lors de son cheminement à proximité du Soleil serait susceptible de la désintégrer, offrant alors un spectacle impressionnant. Et voici, c'était les news de cette rentrée.
À prononcer quand même, mais je vais essayer de m'y faire. Donc tu m'as parlé du Chandrayaan 3, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors Chandrayaan 3, comme son nom l'indique, c'est la troisième mission d'une série de missions spatiales de l'Inde en direction de la Lune. Mmh. Et ce qu'il faut dire, c'est que déjà Chandrayaan 1 avait déjà brillé par ses résultats à l'époque en 2008, parce que c'est la mission qui a permis de valider le fait qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Donc Chandrayaan 1 a fait une étude minéralogique du sol lunaire. Et non seulement donc, ils ont déterminé de quoi était faite la Lune, mais ils ont trouvé de l'eau en surface de la Lune, donc dans des cailloux, en fait c'est des cailloux glacés. Mmh. Lors de cette mission, ils avaient envoyé un impacteur, donc ils avaient envoyé un petit vaisseau qu'ils avaient crashé sur la Lune et ils avaient mesuré la composition de la poussière qui avait émané de ce crash. Donc ça, c'était déjà une mission extrêmement importante. Maintenant, Chandrayaan 3 est aussi également très importante parce que c'est la première mission qui se pose au pôle sud de la Lune. Et le pôle sud de la Lune, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que c'est un endroit où il y a ce qu'on appelle des zones d'éclairage permanent. En réalité, le pôle sud lunaire, c'est un peu comme nos pôles sud et nos pôles nord. Il y a des moments de l'année où, en fait, le ciel, le soleil est en permanence en train d'éclairer. Mmh. Sachant qu'on parle d'un endroit, la Lune, la surface de la Lune, où, quand il fait nuit, il fait moins 200, moins 100 degrés, donc très très froid, et il n'y a plus d'énergie pour alimenter les panneaux solaires.
Donc ce serait une zone propice à la fois pas trop éclairée, mais suffisamment pour ne pas être trop chaude ni trop froide.
Exactement, si c'est ça. C'est une zone qui est ni trop chaude ni trop froide, et surtout qui est éclairée en permanence, donc nos panneaux solaires de nos missions peuvent fonctionner correctement. Mmh. Donc là, par exemple, Pringyan, le petit rover qui était sur la mission Chandrayaan et qui est actuellement maintenant posé sur la Lune, est en train de se balader. Il n'est pas sur l'une de ces zones d'éclairement permanent. Et donc, il y a 2 jours, je crois, de se mettre en veille. Ça veut dire que pendant 14 jours, il va dormir. C'est la, alors, la dormir, longueur de la
vie. C'est-à-dire, il va ne plus fonctionner du tout pendant 14 jours.
Exactement.
Et c'est quoi le but de ça?
Eh bien, parce que pendant 14 jours, il sera, lui, dans la nuit lunaire.
Ah.
Et donc, pendant 14 jours, il ne recevra pas d'énergie sur ses panneaux solaires. Et donc, il est obligé de se mettre en veille. Et
oui, d'accord.
S'il veut pouvoir redémarrer quand il y aura du soleil.
Alors, donc, on peut dire que c'est l'agence spatiale indienne qui a découvert l'eau sur la Lune.
Absolument.
En gros. Alors, ma question, déjà, c'était comment l'eau, elle peut se former sur la Lune? Parce que j'ai récemment lu un papier comme quoi ce serait notamment dû à ce que le soleil projette. En gros, ce serait dû à un rayonnement solaire qui permettrait la formation d'hydrogène et donc ensuite d'H2O au niveau de la surface des roches, une sorte de bille. Alors, j'ai pas encore tout à fait compris le papier que j'ai pu lire. Mais en gros, alors, d'où vient cette eau? Voilà, c'est ça ma question.
Je ne suis pas moi-même géologue, donc je n'ai pas forcément toute la connaissance. Mmh. Moi, ce que j'en comprends, c'est que l'origine de l'eau sur la Lune, elle peut être multiple. Il y a la formation, de la même façon que pourquoi est-ce qu'il y avait de l'eau sur Terre? Il pourrait y en avoir eu lors de la formation de la Lune.
Mmh.
Une autre origine possible de l'eau, c'est les comètes, et en particulier donc les comètes qui deviennent des météorites quand elles tombent sur la Lune et qui, elles, sont, on le sait, très riches en glace, d'eau. L'origine dont tu parles, je connais pas du tout, donc ça, moi aussi, je serais ravie d'entendre parler quand tu...
Oui, je fais un papier que j'ai vu il y a pas très longtemps.
Mais je pense que ce qui est très important de bien préciser pour les auditeurs, c'est qu'on parle ici d'eau glacée. L'eau liquide ne peut pas exister à la surface de la Lune parce que les températures ne le permettent pas.
Et puis beaucoup d'eau qui est contenue dans la roche aussi. C'est de l'eau,
voilà, c'est ça.
L'eau minérale, entre guillemets, c'est de l'eau qui est contenue dans la roche. Et on ne va pas retrouver des lacs entiers.
On ne va pas retrouver ni des lacs ni des icebergs.
D'icebergs, voilà. Exactement. Donc, mais il y a de l'eau et on pourrait éventuellement s'en servir de cette eau. La prélever, peut-être.
Eh bien, c'est le plan de toutes les agences spatiales qui ont des plans d'expansion vers Mars en particulier, parce qu'avec de l'eau, on peut créer de l'essence pour fusée. Parce que l'eau, c'est H2O, et en fait, on est capable de faire ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'eau, donc on sépare H2 de l'oxygène, et ces deux éléments-là sont les constituants de l'essence de nos fusées. Donc, on imagine dans la plupart des projets d'expansion vers Mars, en fait, des espèces de stations essence sur la Lune, dans laquelle on minerait l'eau présente sur la Terre lunaire, qu'on transformerait en carburant et ensuite qu'on enverrait donc vers Mars.
D'accord, donc ouais, utiliser, pas forcément l'eau qu'il y a sur la Lune pour boire ou subvenir aux besoins des astronautes ou pour la nourriture. Mais plutôt pour en faire un carburant, en fait.
Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, ça fait aussi partie des plans d'habitation plus long terme, mais l'intérêt principal avancé pour l'instant, c'est le carburant, ou en tout cas la source d'énergie.
Ouais.
Après, ce qui est intéressant avec tout ce qui est en train de se passer, en particulier lié le fait que ce soit les Indiens qui soient arrivés dans ce pôle sud lunaire, c'est qu'on commence à soulever des questions de géopolitique et questions de législation sur la Lune.
Et oui, à qui appartient la Lune et qui peut l'accaparer, quoi.
Exactement. Donc, à qui appartiennent ces ressources? Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou est-ce qu'on est dans un autre cadre légal? Il faut dire que le cadre légal qui régit l'espace est très vieux, donc... Il faut dire qu'il y a un traité qui est très vieux pour l'espace, qui s'appelle le Outer Space Treaty de 1967, qui expliquait que l'espace doit avoir un usage pacifique et qu'il appartient à tout le monde. Après ce traité-là, il y a eu un traité spécifique pour la Lune, qui s'appelle le Moon Treaty, qui lui a été signé en 1979. Mais c'est un traité qui a été signé par très très peu de nations. Et notamment pas par les États-Unis. Donc, oui. Ce traité-là, structure l'idée d'un usage pacifique et commun de la Lune, n'est pas un traité qui est signé par les principaux acteurs, ou en tout cas par l'acteur des États-Unis en particulier.
C'est-à-dire que, pourtant, les États-Unis, c'est l'un des acteurs majoritaires, mais il n'a pas signé ce traité-là.
Non.
C'est un peu contradictoire, ou c'est un peu... Ou c'est pas forcément contradictoire, mais c'est plutôt... C'est-à-dire qu'ils se protègent un peu en se disant, bah, comme ça, au moins, si un jour je peux m'accaparer une partie de la Lune, je pourrais le faire, j'ai pas signé le traité.
Eh bien, c'est un peu ça, quoi. C'est un petit peu ça, et c'est ouais. Un petit peu ce qu'on a, moi, ce que j'ai l'impression de lire dans les nouvelles législations qui sortent des États-Unis, justement, mmh. où eux ont commencé à écrire de nouvelles lois, qui fait que dans leur pays, si on arrive sur la Lune ou sur d'autres corps célestes et qu'on creuse une tonne de matériaux, cette tonne vous appartient.
Ah ouais.
Donc il n'y a pas de propriété terrienne, on ne peut pas dire cet hectare est à moi. Mm. Par contre, si on creuse dedans et ce qu'on en ressort, ça vous appartient.
Donc on a le droit de prélever du sol lunaire et dire que ce sol est à moi.
Exactement.
D'accord, ouais. C'est un peu compliqué. Mais alors, parce qu'on s'imagine, peut-être beaucoup l'ont imaginé, quand les États-Unis ont planté leur drapeau la première fois qu'ils étaient sur la Lune, on peut se dire, bah tiens, ils ont planté le drapeau pour dire c'est notre Lune. Et je pense que c'était l'image qu'ils ont voulu donner, peut-être.
C'est sûr que c'était une image très très forte. Je pense que le drapeau était plus dans le contexte de la course aux étoiles avec l'URSS à l'époque, et donc ça permettait de dire nous sommes les premiers arrivés. Le drapeau planté, c'est 1969, c'est 2 ans après le traité de l'espace. Donc déjà, il y avait quand même eu cette notion d'écrire que l'espace appartient à tout le monde et est là pour un usage pacifique.
Ils se sont déjà dit, on fait ce qu'il faut avant et on voit après.
Moi, ce que je trouve très intéressant avec cette nouvelle de l'Inde qui arrive sur la Lune et qui donc apparaît comme un acteur incontournable de la course à la Lune, j'ai pas nommé les autres. Donc les autres acteurs qui sont déjà atterris, les États-Unis évidemment, l'URSS, la Chine en 2019, qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, donc ça c'était aussi très très notable. Et maintenant l'Inde. À noter que l'Europe n'y est jamais allée. Ni l'Europe, ni le Japon.
Ni le Japon.
Pas posé. Et bien, ce qui est intéressant avec le fait que ce soit l'Inde les premiers à se poser au pôle Sud, c'est que, comme je disais, le pôle Sud, c'est une localisation très intéressante pour des futures bases lunaires. On verra ce que vont dire maintenant les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, par rapport au fait que, eh bien, ce ne sont pas les premiers
à être là-bas.
On ne sait pas. Peut-être que les Indiens auront la première base lunaire sur le pôle sud lunaire.
Et oui. Ouais.
Je ne sais pas pour l'instant. C'est quand même les États-Unis qui ont le programme de vol habité le plus avancé sur ces questions-là. À noter que la Russie avait essayé de faire cet atterrissage sur le pôle sud lunaire une semaine avant les Indiens et qu'ils n'ont pas réussi.
Ah oui, la mission, la fameuse Lunar...
Luna 25, je crois.
Oui, c'est ça. Qui a complètement raté, qui s'est écrasée.
Qui s'est crachée sur la Lune.
Sur la Lune, oui. Donc, à peu de choses près, la Russie aurait été les premiers à arriver sur le pôle sud lunaire.
Absolument.
Ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais félicitations, au final, pour les Indiens.
Mais ça indique bien que c'est encore une nouvelle course.
Et oui, ben, complètement. Et que les Indiens, du coup, se retrouvent en plein dedans et sont acteurs majoritaires, font partie des coureurs en pole position, quoi.
Oui, l'Inde fait partie des acteurs principaux du domaine spatial depuis bien longtemps. Ils ont notamment des gros lanceurs qui leur permettent d'envoyer des très grosses missions. Mais ils n'ont pas eu jusque-là de mission phare comme celle-là qui a eu un tel retentissement médiatique. Maintenant, je pense qu'ils sont absolument sur la carte de du monde entier.
Même au niveau international, on est en plein sur à nouveau la course à la Lune, puis ensuite très certainement la course à Mars. Là, on est en plein dedans, parce que quand on regarde ce que fait l'ESA, par exemple, avec l'agence spatiale japonaise et américaine aussi, par rapport à la grande station, la future station The Gateway, autour de la Lune. avec toute l'émission Artemis aussi, c'est quand même c'est huge, c'est énorme.
Absolument.
SpaceX aussi qui met son nez dedans. Donc,
SpaceX qui fait partie intégrante du programme américain, dont notamment le Gateway et l'émission Artemis. On est dans un moment un peu particulier parce que la Station Spatiale Internationale arrive en fin de vie. Normalement, oui, c'est 2028. Donc, 5 ans.
C'est pas longtemps. Ouais.
Donc, c'est la fin d'une très très belle aventure. Je ne sais pas si elle sera désorbitée ou si elle sera vendue à des acteurs privés qui continuera à la maintenir. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à d'autres missions ambitieuses. Parce que la Station Spatiale Internationale, c'est quand même un énorme budget. Et donc, ce budget arrivant à terme d'ici quelques années, eh bien, c'est un budget qui est libéré pour d'autres missions.
Pour d'autres choses. Alors, j'ai vu qu'il y a la station spatiale chinoise qui est déjà en fonctionnement, là, actuellement. Et SpaceX qui aurait pour projet, alors j'ai vu ça sur Twitter, à vérifier, aurait pour projet de faire sa propre également station spatiale qui serait plus grande que l'ISS. Alors attention à prendre avec des pincettes parce que info à vérifier, c'est une annonce sur Twitter. À voir. Peut-être que le journaliste s'est trompé avec justement The Gateway et a voulu faire un truc, un article un petit peu tape à l'œil. Mais bon, en tout cas, dans tous les. En tout cas, on est dans la course à la Lune, à l'espace, et on a des gros. Il y a des gros projets, des grosses choses qui pointent leur nez à l'horizon, qui vont être assez énormes dans les prochaines années, je pense.
Je pense que l'espace, depuis pratiquement le début, a toujours été un moyen pour les nations de montrer leur avancée ou leur avancement technologique au reste du monde. Aujourd'hui, on est dans une redéfinition des forces géopolitiques, des alliances de par le monde. Donc, le spatial redevient un endroit où on peut montrer qu'on est le plus fort.
C'est ça, exactement. Avant, c'était le Far West. Maintenant, c'est le Far West lunaire. C'est le pôle sud. Far South.
Mais j'espère qu'on en parlera dans une émission prochaine, justement. Le pôle sud, le pôle nord, ouais. Sur Terre.
Sur Terre.
Ce sont aussi des zones chaudes de la géopolitique actuelle.
Exactement. Ce sera le sujet du mois prochain. Donc, le mois prochain, on accueillera Aude Boutet, qui est une chercheuse indépendante et exploratrice, qui travaille en tout cas sur l'effet du réchauffement climatique sur les oiseaux marins, et notamment au niveau du pôle sud terrestre. Donc on en parlera le mois prochain. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bref, bon mois de septembre, à la prochaine, et ciao.
Au revoir.
Bonne journée.
E is equal to m t square, in which energy is spread equal to mass. Furthermore, the equation E is equal to m t square, in which energy is spread equal to mass.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Oui, tout est relatif.